Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 1er juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports, c'est mardi. C'est aussi le rendez-vous pour la semaine politique. On passe au journal et au sommaire de ce bulletin. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le gouvernement continuerait de faire pression pour une exemption totale des droits de douane américains pour l'Australie, alors que la ministre des Affaires étrangères Penny Wong est aux États-Unis pour des négociations. À compter de ce mardi 1er juillet, les Australiens bénéficieront d'un meilleur accès au congé parental rémunéré. Le salaire minimum augmentera et des millions de personnes verront leur paiement de Centrelink augmenter. Les appels à un cessez-le-feu à Gaza se multiplient après 24 heures de violences meurtrières dans l'enclave. Des responsables locaux et du personnel médical affirment que les attaques israéliennes auraient tué au moins 72 Palestiniens, dont 21 personnes, sur un fond de mer très fréquenté près de la ville de Gaza. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le gouvernement continuerait de faire pression pour une exemption totale des droits de douane pour l'Australie, alors que la ministre des Affaires étrangères Penny Wong est aux États-Unis pour des négociations. La sénatrice Wong s'est rendue à Washington pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad, à laquelle participeront le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ainsi que ses homologues indiens et japonais. Anthony Albanese a déclaré que Mme Wong plaiderait pour que les États-Unis abandonnent totalement leurs droits de douane sur les exportations australiennes. Anthony Albanese affirme que l'Australie n'augmentera pas ses dépenses de défense en avril prochain dans le cadre de sa stratégie de défense nationale après les appels des États-Unis à renforcer le budget de la défense. Les États-Unis ont appelé l'Australie à porter des dépenses de défense à 3,5% du PIB. L'administration Trump a également annoncé qu'elle examinerait l'accord AUKUS qui prévoit l'achat par l'Australie de sous-marins nucléaires américains. Le Premier ministre australien affirme que le gouvernement est en contact avec les États-Unis sur cette question.
At every opportunity, Australia raises our points that we have. And AUKUS benefits three countries, Australia, the UK and the US, but it does something more than that as well. It benefits the world because it makes our region and the world more secure.
À compter de ce mardi 1er juillet, les Australiens vont bénéficier d'un meilleur accès au congé parental rémunéré. Le salaire minimum augmentera et des millions de personnes verront leur paiement de Centrelink augmenter. Les travailleurs les moins bien rémunérés d'Australie bénéficieront d'une augmentation de salaire, le salaire minimum national augmentant de 3,5%. Des millions de personnes bénéficieront également d'une augmentation de leur versement de Centrelink avec une augmentation de 2,4% pour atténuer la hausse du coût de la vie. S'exprimant sur l'émission Today de Channel 9, la ministre des Finances, Katie Gallagher, a déclaré que les changements aideront les Australiens.
Not pretending that people aren't still continuing to do it pretty tough, which is why there's a whole range of support that comes in on the 1st of July. So it is about increasing the minimum wage and increase in super. But there's also increases in payments that come from the government. There's increase in PPL and we're paying super on PPL. There's a whole range of areas where we're providing additional assistance. The energy bill rebates come in.
Les apprentis ouvriers du bâtiment vont recevoir 10 000 dollars d'incitation à compter de ce mardi 1er juillet dans le cadre des efforts du gouvernement albanais pour accroître la main-d'œuvre du secteur. Les apprentis éligibles recevront un total de 10 000 dollars en plus de leur salaire versé pendant toute la durée de leur apprentissage. Le gouvernement affirme que cette incitation vise à former une génération d'ouvriers, ce qui permettra à l'Australie de répondre à la demande de construction de logements. Le ministre des compétences, Andrew Giles, affirme que ce programme va encourager davantage de personnes à intégrer le secteur.
Australians will have 10,000 more reasons to pick up the tools and become a tradie in 59 occupations relevant to building the houses that Australians need. This builds on so much more. We know that when we came into government, we inherited the worst skills crisis in 50 years. It's had a huge impact across the economy, particularly in construction. But we've done much already to turn that around.
Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré qu'il était réticent à critiquer la conduite de la police tant que des informations complémentaires n'étaient pas disponibles après l'arrestation par la police lors d'une manifestation pro-palestinienne qui a causé de graves blessures au visage à une candidate du Parti des Verts. Le premier Minns affirme que faire respecter la loi tout en garantissant la liberté d'expression politique est un équilibre délicat. La candidate des Verts, Hannah Thomas, figurait parmi les 5 personnes arrêtées lors d'une manifestation vendredi dernier devant une entreprise australienne que les manifestants accusent d'être liée à la fabrication de composants pour les avions de chasse utilisés par l'armée israélienne, ce que l'entreprise a démenti. La police va enquêter sur les circonstances des arrestations après avoir été accusée d'usage excessif de force, accusation qu'elle dément. Sue Higginson, députée des Verts de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré sur SBS qu'une enquête sérieuse et indépendante sur la réponse policière aux manifestations dans l'État était nécessaire.
What we can see is an emboldened police force that felt that it was within their right to attend a protest and use excessive force. And now we have a significantly injured woman who attended that protest because she is an advocate for peace. I believe there is a critical incident, but there is a broader question as well. What has emboldened the police?
Angus Taylor, porte-parole de l'opposition pour la défense, est en désaccord avec la chef de l'opposition, Susan Lee, sur les quotas de femmes au sein du Parti libéral, mais il écarte la question de savoir s'il envisage de la défier à la direction du parti. Madame Lee a suggéré qu'un système de quotas pourrait être une bonne idée pour garantir une plus grande représentation des femmes au sein de la coalition. Actuellement, un tiers des députés libéraux sont des femmes, ce qui est bien au-dessus de l'objectif de 50% recommandé lors d'une étude de 2015. En comparaison, plus de 50% des députés travaillistes sont des femmes. Angus Taylor, qui a échoué de quelques voix seulement à la tête du Parti libéral, se dit d'accord avec l'objectif défini par Susan Lee, mais affirme ne pas croire à l'instauration de quotas de femmes.
We've got to have sensible debates about making sure that we have more great women coming into the party at the organisational level, in the parliament, in the reps, in the Senate. And that's hard work we've got to do. I've never been a believer in quotas to achieve that, but it's clear we have to take proactive action to achieve that. Susan and I are absolutely agreed on the objective here, and we're going to work together closely on it.
Le gouvernement du Victoria a confirmé son intention de donner une voix autochtone à l'échelle de l'État au Parlement en faisant de l'Assemblée des Premiers Peuples un organe permanent. L'Assemblée des Premiers Peuples, composée de 33 membres élus, fournira des conseils sur les lois et les politiques qui affectent les communautés autochtones du Victoria, de la santé et de l'éducation à la criminalité et au développement. La création de cet organe permanent est envisagée depuis janvier dans le cadre des négociations sur le traité entre le gouvernement de l'État et l'Assemblée des Premiers Peuples du Victoria. Le coprésident Ruben Berg affirme que les membres joueront un rôle permanent dans la recherche de la vérité et tenir le gouvernement responsable sur les questions qui affectent les communautés autochtones. La première du Victoria, Jacinta Allen, a déclaré que la voix au Parlement de l'État ne serait pas inscrite dans la Constitution. La première a affirmé que cela ne nécessiterait pas de modification constitutionnelle, contrairement à la proposition de voix au Parlement fédéral qui a échoué.
As a state, we are up for this. We're up for this very simple, common sense change of involving and listening First People in the decisions that affect them.
De nouvelles règles de circulation et mesures de sécurité routière entrent en vigueur ce mardi 1er juillet, notamment l'introduction à l'échelle nationale de caméras de surveillance alimentées par l'intelligence artificielle pour détecter l'utilisation des téléphones portables. Des limites de vitesse seront également instaurées dans de nombreux États en réponse à l'augmentation des décès sur les routes. Le bureau de la météo indique qu'une zone de basse pression atmosphérique va inonder et va frapper plusieurs régions de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria tout au long de la semaine, provoquant de fortes pluies et des inondations potentielles. Helen Reid du bureau de la météo indique que des pluies persistantes dans la région pourraient entraîner des inondations et la montée des eaux des rivières de l'Est.
It's isolated heavy rainfall, which may lead to flash flooding along the coastal fringe north of Ullandulla, with 6 hourly totals between 70 to 90 millimetres and up to 120 millimetres in isolated locations in that 6 hour period. Towns impacted include Armidale, Taree, Newcastle, Gosford, Sydney, Wollongong, Nowra and Batemans Bay. Locally destructive wind gusts of around 125 kilometres an hour also possible from midday on Tuesday for exposed coastal areas between Bondi and Wollongong.
La conférence internationale sur le financement du développement qui se tient une fois tous les 10 ans promet d'aborder cette question en définissant le cadre mondial du développement. La décision des États-Unis de se retirer de la conférence et la baisse de l'intérêt des pays riches pour l'aide étrangère ont réduit les espoirs de changements significatifs découlant du sommet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre le blocage du financement du développement et appelle à une mobilisation rapide des ressources pour des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a appelé les pays riches à investir dans la réalisation des objectifs de développement durable fixés dans l'agenda de 2030.
We have gathered because billions of people's and lives depend on the decisions we make. On whether we choose ambition over paralysis, solidarity over indifference, or courage over convenience.
Les appels à un cessez-le-feu à Gaza se multiplient après 24 heures de violences meurtrières dans l'enclave. Des responsables locaux et du personnel médical affirment que les attaques israéliennes auraient tué au moins 72 Palestiniens, dont 21 personnes, sur un front de mer très fréquenté près de la ville de Gaza. L'armée israélienne avait auparavant émis des ordres d'évacuation pour les habitants du nord de Gaza, mettant en garde contre une intensification des activités militaires. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, affirme qu'une résolution rapide est nécessaire pour mettre fin aux violences.
The Secretary General is alarmed by the new evacuation orders, which have once again displaced tens of thousands of people. The Secretary General condemns the continued loss of civilian life resulting from Israeli airstrikes and other attacks. All parties must comply fully with international law at all times. The Secretary General welcomes the continued efforts by the mediators and reiterates his appeal to the parties to urgently reach a permanent ceasefire.
La météo pour ce mardi en Australie à Perth, il fera 22 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 14, Hobart 12, Canberra 13, Sydney 16, Brisbane 21, Darwin 30 et à Alice Springs maximal de 18 degrés plutôt. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. France 24 débarque sur SBS On Demand. SBS On Demand renforce son offre d'actualité internationale en accueillant la chaîne France 24 au format FAST, télévision en streaming gratuite financée par la publicité. Diffusée en anglais, cette chaîne d'information continue offre une perspective française sur l'actualité mondiale. Avec ce partenariat, SBS confirme sa volonté de proposer un accès gratuit, fiable et diversifié à l'information pour tous les Australiens. Diffusée en anglais, la chaîne France 24 vient enrichir l'offre d'actualité internationale de SBS en proposant un service d'information supplémentaire, fiable et ancré en France. Cette nouvelle collaboration renforce l'engagement de SBS à offrir à son public des contenus d'actualité variés, pluriels et accessibles à tous. Mandy Wicks, directrice de l'information et de l'actualité chez SBS, déclare, je cite, « Dans un monde en perpétuelle évolution, disposer d'une information claire et diversifiée sur les événements internationaux est essentiel pour mieux comprendre les incertitudes qui nous entourent. SBS News entretient depuis longtemps une relation de confiance avec France 24 et nous sommes ravis d'accueillir leur chaîne Fast sur SBS On Demand. » Cela illustre pleinement notre volonté d'offrir un accès gratuit à une pluralité de points de vue sur l'actualité mondiale. Serge Schick, directeur du développement international et des ressources commerciales de France 24, ajoute, je cite, « France 24 est fier de rejoindre les services d'information de SBS ». En plus d'un journalisme rigoureux et équilibré, notre chaîne apporte une perspective française unique sur les grands enjeux mondiaux avec des éclairages sur la culture, l'histoire, la politique et bien plus encore. La programmation de SBS News comprend déjà des bulletins quotidiens de France 24 en anglais sur sa chaîne principale et sur SBS Viceland, ainsi qu'un bulletin en français sur SBS World Watch. France 24 devient ainsi la deuxième chaîne Fast à intégrer SBS cette année, après Euronews en avril. Grâce à ces ajouts, SBS propose désormais des contenus provenant de 52 partenaires internationaux, répondant à une demande croissante pour une couverture de l'actualité mondiale disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En tant que source d'information de référence en Australie, SBS poursuit son engagement en faveur d'une programmation internationale et multiculturelle disponible en plus de 60 langues. L'arrivée de France 24 au sein de SBS On Demand s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à faire de la plateforme un point d'accès unique à l'information et aux divertissements internationaux en s'appuyant sur le succès de ses chaînes Fast existantes et d'une riche bibliothèque de contenu. France 24 est une chaîne de télévision internationale d'information en continu financée par l'État français et basée à Paris. Diffusée 24 heures sur 24 en anglais, elle propose une couverture mondiale de l'actualité avec une perspective française grâce à un réseau de 200 correspondants présents dans la quasi-totalité des pays. Minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français et on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, le journal des sports de ce mardi 1er juillet 2025 et on commence bien sûr avec du tennis, la première journée de Wimbledon lundi. Belle performance pour les Français, déjà 4 qualifiés et une place au troisième tour acquise. En effet, Benjamin Bonzi a joué un des plus grands matchs de sa carrière pour aller terrasser Daniil Medvedev, demi-finaliste des deux dernières éditions. Adrian Manarino a logiquement pris le dessus sur l'Australien Christopher O'Connell du fait de son habileté légendaire sur un gazon et Valentin Royer a dominé dans les grandes largeurs Stefanos Tsitsipas pendant 2 sets avant que le Grec ne jette finalement l'éponge. Royer affronte donc son compatriote Manarino mercredi. Arthur Rinderknecht qui affrontait Alexander Zverev et Giovanni Pecci Pericard qui affrontait lui à Taylor Fritz ont dû s'arrêter à cause du couvre-feu. Leurs matchs reprendront aujourd'hui. Ils en sont respectivement à 1-7 et 2-7 chacun. Égalité parfaite donc. Côté femme, elle n'était que 3 bleus dans le tableau principal. Ça passe pour Diane Perry en 3-7 contre Mitra Partic. Ça ne passe pas pour Varvara Gracheva, éliminée au tie-break 6-4, 6-7, 7-6. Quant à Elsa Jacquemot, elle jouera son premier tour demain. On vous disait donc 4 qualifiés, une place au troisième tour. Les qualifiés sont donc Benjamin Bonzi, Adrian Manarino, Valentin Royer et Diane Perry. Et pour la place au troisième tour, eh bien ce sera donc entre Royer et Manarino. De son côté, Carlos Alcaraz, double tenant du titre, s'est fait très peur. Le numéro 1 mondial a dû batailler 4h30 et 5 manches pour sortir Fabio Fognini. Et la surprise du jour est signée Arthur Ferry, 461e mondial, fils du président de l'Orient mais représentant l'Angleterre, qui s'est offert la tête de série numéro 20, Alexei Popirine. On passe au football avec la Coupe du Monde des clubs et les 8e de finale. Les 2 premiers matchs, Palmeiras contre Botafogo et Benfica contre Chelsea, nous sont résumés par Antoine Grenier pour Radio France Internationale.
Qu'il s'agisse de Palmeiras Botafogo ou Benfica Chelsea, il a fallu aller au-delà du temps réglementaire. Les Blues rejoints à la 95e minute sur un pénalty des Portugais ont ensuite inscrit 3 buts en 10 minutes entre la 108e et la 117e pour s'imposer 4-1 et s'offrir un quart de finale face à Palmeiras qui a lui sorti Botafogo 1-0.
Un autre rendez-vous déjà connu en quart, ce sera PSG-Bayern. Les Parisiens qui ont climatisé l'Inter Miami de Lionel Messi 4-0 et les Allemands, portés par l'efficacité d'Harry Kane, ont dominé Flamengo 4-2. Ça passe en quart aussi pour les Brésiliens de Fluminense qui éliminent l'Inter Milan 2-0. Saison blanche pour les Italiens et un Lautaro Martinez hors de lui. L'attaquant a demandé publiquement à ses coéquipiers les moins motivés, eh bien tout simplement de quitter le club. L'Argentin était déjà très touché par la large défaite de l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions face au PSG. On le rappelle, 5-0. Toujours dans l'actualité du ballon rond, on en parlait dans le dernier journal des sports. Ça y est, c'est officiel. Paul Pogba a signé avec Monaco. Antoine Grenier.
Sans club depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus en novembre 2024, il a signé pour 2 ans, la fin de près de 3 saisons quasi blanches, marquée par une suspension de 18 mois pour dopage, des blessures et une affaire de séquestration dont il a été la victime. Pogba en larmes à la signature de son contrat avec l'ASM pour un transfert médiatique, mais qui interroge Patrick Juillard, le consultant Radio Foot International, pour qui les besoins de Monaco sont ailleurs.
Ce qui me surprend, c'est pas tant le choix de Paul Pogba, c'est la hiérarchie des priorités. Pour moi, les besoins de l'AS Monaco ne se situent pas au milieu de terrain, au poste où évolue Paul Pogba. Je pense que la priorité principale, c'est le poste de gardien de but. Donc Pogba, pour moi, c'est ce qu'on appelle un recrutement d'opportunité. C'est un joueur qui était libre. C'est un joueur qui a un potentiel d'attractivité pour le club qui est important et qui, si ça fonctionne, peut être un joueur qui change un match. Mais encore faut-il qu'il revienne à un niveau qu'on ne l'a plus vu depuis au moins 4 ou 5 ans.
Et on en parlait aussi dans le dernier journal, la relégation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Après la démission de John Textor, eh bien c'est Michelle Kang qui est nommée présidente du club rhodanien. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce rôle dans l'histoire du club. Et dans son sillage, Michael Gerlinger a été promu directeur général. On passe au rugby avec Toulouse qui conserve son titre de champion de France. Olivier Pron, RFI.
Combat, suspense, magnifique phase de jeu et au bout de ce suspense et de la prolongation, le Stade Toulousain, champion de France aux dépens de Bordeaux-Bègles, le club le plus titré du pays, a remporté son 24e bouclier de Brennus, le 3e consécutif, victoire au terme d'une finale épique. On a dit score final 39-33, c'est vous dire. Un mois et demi après leur titre européen, les Bordelais ne réaliseront donc pas le doublé. Le coup est rude. Écoutez en revanche la joie du troisième ligne de Toulouse, l'international français Anthony Gelon.
Franchement, aujourd'hui c'était le rêve. Le match qu'on fait, ils reviennent à la dernière action. 33-33, on était tous morts et il reste 20 minutes après prolongation et toute l'équipe a rien lâché. On gagnait la fin de 6 points, c'est énorme, franchement. On allait chercher avec les triples, avec ce qu'on avait plus. On avait plus d'énergie, on avait plus rien, mais avec ce qui nous restait après la saison qu'on a passée, où tout le monde nous promettait l'enfer ce soir, mais franchement, je suis fier des mecs. Les affaires, on a fait un match de dingue. Je crois qu'on a fait le meilleur match de l'année ce soir devant, ici en finale. Donc franchement, c'est extra ce soir et on va bien fêter ça, je pense.
En cyclisme, à quelques jours du début du Tour de France, Dorian Godon a été sacré champion de France sur route au terme d'un sprint final endiablé sous une chaleur étouffante. Le coureur Décathlon âgé 2R, 29 ans, ne participera par contre pas au Tour de France car il a déjà couru le Giro et accumulé beaucoup de jours de compétition. C'est la première fois depuis le sacre de Rémi Cavagna en 2001 qu'un champion de France ne participe pas au Tour de France. L'autre grand favori de la course, Kevin Vauquelin, Arkéa B&B Hotels, termine troisième du championnat de France sur route, après sa deuxième place lors du championnat de France de contre-la-montre, plutôt dans la semaine. Un mot de basket et terrible désillusion pour les joueuses tricolores à l'issue de l'Eurobasket. Après avoir vu les portes de la finale se refermer devant son nez à la dernière seconde face à l'Espagne 64-65, l'équipe de France féminine de basket échoue tragiquement à ramener une médaille battue par l'Italie 54-69 lors de la petite finale. C'est finalement les joueuses belges qui remportent la compétition 67-65 face à l'Espagne. L'Italie complète donc le podium, puis la France en quatrième position. C'est la première fois depuis 2007 que les Bleus ne ramènent pas de médaille. Le Grand Prix d'Autriche de la Formule 1, bien sûr, remporté par Lando Norris. Le Britannique s'impose juste devant son coéquipier de chez McLaren, Oscar Piastri, et revient ainsi à 15 points de l'Australien. L'Australien, champion de la compétition pour le moment. Charles Leclerc complète le podium avec sa Ferrari, alors que Max Verstappen pour Red Bull a été éliminé dès le premier tour. Esteban Ocon, 10e, est le seul Français dans les points. Et enfin, on termine ce journal avec la condamnation en Algérie du journaliste Christophe Glaize à 7 ans de prison ferme. Détenu depuis plus d'un an, ce freelance collaborateur de SoFoot et Society est accusé d'avoir échangé avec un responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement classé organisation terroriste par les autorités algériennes. Reporters sans frontières dénonce une condamnation sans fondement. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi.
h 30 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. C'est mardi et on passe au rendez-vous de la semaine politique et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
C'est l'heure de notre chronique La Semaine Politique avec Patricia Meunier et on va parler des dépenses de défense en Australie qui ne font toujours pas l'unanimité. Canberra continue de résister à la pression de Washington qui prône un renforcement de la défense, mais le pays a néanmoins accepté de faire une réévaluation de son budget. Patricia Meunier.
La crise au Proche-Orient a réouvert les conversations sur les dépenses de l'armée. Les États-Unis continuent de pousser leurs alliés pour qu'ils augmentent leur budget de défense. Malgré la pression de Washington, l'Australie refuse d'augmenter ses dépenses de défense aux niveaux exigés par le gouvernement américain, soit de 3,5% du produit intérieur brut. Et ceci même si les pays de l'OTAN ont accepté de le faire lors de leur récente réunion de la fin juin aux Pays-Bas. Ils ont convenu d'investir quelque 5% du PIB d'ici 2035. Le ministre de la Défense australien, Richard Marles, affirme que l'augmentation prévue de ces dépenses est suffisante. On l'écoute.
Obviously, a very significant decision has been made here in relation to European defence spending, and that is fundamentally a matter for NATO. We've gone through our own process of assessing our strategic landscape, assessing the the threats that exist there and the kind of defence force we need to build in order to meet those threats, to meet the strategic moment, and then to resource that. And what that has seen is the biggest peacetime increase in Australian defence spending that we have seen in our history. Now, that is a story which is understood here.
On le rappelle, l'Australie prévoit d'augmenter ses dépenses de défense à hauteur de 2,3% du produit intérieur brut d'ici l'exercice 2033-2034. En revanche, le gouvernement travailliste a annoncé qu'il allait aussi réévaluer les dépenses de défense suite à la décision de l'OTAN de les augmenter. Selon certains experts australiens, il serait bien de viser une augmentation de 3%. Angus Taylor, porte-parole de l'opposition en matière de défense, n'a pas donné de chiffres. Selon lui, les dépenses de la défense sont toujours insuffisantes.
Well, there's a whole lot of areas in the Defence Strategic Review that are clearly underfunded. Our drone and counter-drone technologies, as the leader of the opposition, Susan, laid out yesterday, making sure that the Henderson sub-facility is properly funded. The hardening of our northern facilities at a time like this is incredibly important. Making sure we've got domestic missile manufacturing capability, as the government said they will do, but there's no sign of making progress on this.
Comme Donald Trump n'est pas allé au sommet de l'OTAN, le Premier ministre australien n'a toujours pas pu le rencontrer en personne depuis son retour à la présidence américaine il y a 5 mois. Cette situation déplaît à l'opposition qui considère que le Premier ministre se doit d'établir une relation personnelle avec le président des États-Unis, quel qu'il soit. On écoute à nouveau Angus Taylor.
Right now it seems that the Prime Minister is better able to get a meeting with the President of China than the President of the United States. The United States has fought with us in every major war, and that alliance is incredibly important to this country. Regardless of who is leading the United States, that alliance really matters. The Prime Minister needs to get serious about the personal relationship that's necessary to nurture that alliance.
L'Australie a accepté certaines propositions formulées lors de la réunion de l'OTAN. Par exemple, au sujet du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Australie va envoyer un avion de surveillance et 100 militaires en Pologne pendant 3 ans. Elle va aussi imposer des sanctions à des entités financières en lien avec la Russie.
Vous écoutez le programme en français. Et ce mardi, on continue la série de l'histoire cachée de l'Australie avec le professeur Romain Fatti au micro de notre collègue Grégory Pless. Et dans cet épisode, nous nous penchons sur les défis actuels auxquels est confrontée l'activité lainière en Australie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode consacré à l'histoire des moutons en Australie. Dans ce dernier, on s'intéresse à l'époque contemporaine, à certains défis de nature éthique à laquelle se retrouve confrontée l'industrie australienne de la laine et notamment d'une pratique unique au monde, le mulesing, qui pose aujourd'hui de nombreuses questions. Allez, c'est parti pour ce dernier épisode. Alors, vous le disiez tout à l'heure, au pic du pic, c'était à la fin des années 80, on a compté jusqu'à plus de 170 millions de moutons en Australie, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, il y en a effectivement plutôt autour de 70-75 millions, d'après les chiffres que j'ai pu trouver en préparant cette interview. Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, mais je trouve ça étonnant parce que c'est plutôt généralement la Nouvelle-Zélande dont on se moque, en tout cas dans les pays anglo-saxons, en disant « Haha, il y a plus de moutons que de gens dans ce pays », mais c'est en fait complètement vrai pour l'Australie aussi. Alors peut-être que Parce que l'Australie, il y a d'autres raisons de se moquer d'eux que le nombre de moutons par rapport à la population. Bref, toujours est-il que, vous l'avez dit en introduction, l'Australie, encore aujourd'hui, reste de très loin le premier producteur de laine, en tout cas de laine mérinos, dans le monde.
Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand on passe de 170 millions à 70 millions de moutons, voilà, vous avez un effondrement relatif. Toutefois, l'Australie continue d'être le premier producteur de laine mérinos. Mais ce qui s'est passé, c'est que nos besoins ont changé. Hein. Je l'ai rappelé, par exemple, le synthétique. Là, je me regarde aujourd'hui, j'ai pas, non, je n'ai pas de laine sur moi. Ah, si j'ai une écharpe en laine, voilà. Donc, la manière de s'habiller fait que y a moins besoin de laine. On a aussi des vêtements qui vont être plus imperméables, etc., plus chauds, voilà. Mais il y a aussi surtout le fait de la diversification et de l'augmentation de la production de choses qui n'étaient pas produites avant. Donc, quand vous êtes une des seules productions agricoles et que vous exportez mondialement, effectivement, vous allez avoir une part de marché qui est très importante. Mais aujourd'hui, l'Australie est un producteur très important de mangue, de, comment dirais-je, d'avocat et de tout un tas d'autres produits qui sont également exportés. De viande, de blé surtout, énormément de blé. L'Australie est un grenier à blé, pardon. Donc, si la production en valeur nette demeure toujours très très importante, proportionnellement à toutes ces autres industries qui se sont développées, effectivement, elle est beaucoup moins importante. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on voyage en Australie. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous allez voir des hangars de tonte un peu partout. Il y a même un musée que je vous recommande qui s'appelle Hay Shearers Hall of Fame, le musée de la renommée des tondeurs de moutons à Hay. Hay, c'est une toute petite ville en Nouvelle-Galles du Sud. Il faut vraiment s'arrêter dans ce musée-là, qui est très bien fait d'ailleurs. Et alors, c'est très surprenant. Vous êtes au milieu de nulle part. Hein. Vous êtes quand même à 7-8 heures de route de la côte. Pour relier Adélaïde, il vous reste encore 10 heures de route. Et donc, vous avez ce musée. On vous montre en fait comment la vie quotidienne de milliers de personnes en Australie s'organisait autour des moutons, de leur tonte, de leur entretien, de leur production, de leur reproduction, de la viande, et on s'en rend pas compte. Alors aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est un peu relégué dans le folklore, même si ça reste une industrie importante, mais simplement, c'est plus l'industrie dominante. Hein. Et l'industrie dominante aujourd'hui, ça va être, enfin, du moins pour tout ce qui est production agricole, c'est plutôt le blé, et surtout la cattle industry, l'industrie de la viande bovine, et puis celle qui représente le mieux l'exploitation de la terre, au sens le moins noble possible, ce sont les mines. Donc, si vous voulez, culturellement, en termes de représentation mentale, les moutons, on se dit oui, ça c'était le 19e siècle, mais pas du tout. Jusqu'au 20e siècle, c'était encore très important. Et encore aujourd'hui, au 21e siècle, comme on l'a rappelé, l'Australie produit la majorité de la laine mérinos. Donc, c'est très important, mais c'est beaucoup moins visible que ça ne l'a été.
Alors, je précise au passage que cette industrie de la laine, et c'est normal, on en discute depuis déjà pas mal de temps sur l'impact qu'elle a eu à la fois sur la construction du pays et tout le reste, elle est à l'origine de sans doute l'une des seules marques australiennes, toute activité confondue, qui est connue mondialement. C'est UGG, la marque de pantoufles, bottes. Enfin, à un moment, c'était la mode de les porter à l'extérieur, mais c'est plutôt des choses qu'on porte à l'intérieur et qui sont faites entièrement en laine de mouton. Voilà. Pour terminer, pour parler un petit peu de l'actualité, aujourd'hui, la filière de la laine, on l'a dit, elle est beaucoup plus réduite, mais elle reste pas très importante au niveau du marché mondial et peut-être qu'effectivement, comme on a plus tendance à acheter des matières synthétiques qui coûtent moins cher, c'est un marché qui se tourne plutôt vers un secteur un peu plus prestigieux, des grandes marques de textiles européens, etc. Et justement, ça pose un problème éthique à l'Australie puisque dans le cas des moutons, eh bien, il y a une espèce de mouche qui leur est fatale. À vrai dire, je ne connais pas son nom. Je sais que la maladie qu'elle provoque quand elle s'attaque aux moutons, c'est le fly strike. Et en gros, eh bien, ça fait souffrir les moutons dans d'atroces souffrances avant qu'ils meurent. Et donc, il y a déjà plusieurs décennies de ça, il y a une méthode qui a été mise au point pour prémunir les moutons de cette maladie. On appelle ça le mulesing. Et en gros, c'est une opération chirurgicale assez horrible. Je vous laisserai donner les détails, enfin, à vous de voir jusqu'à où vous voulez les donner, mais enfin, c'est une opération assez brutale et qui est considérée aujourd'hui par un certain nombre d'associations de défense des animaux. Ça semble assez logique, mais aussi par de plus en plus justement de grandes marques du textile international qui considèrent que ce sont des pratiques cruelles et qui ne veulent plus être associées à ça. Et je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 200 marques dans le monde qui se sont engagées à ne plus acheter de laine issue de moutons qui auraient été mulesés, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui auraient subi donc cette opération chirurgicale pour renforcer leur image éthique. Ça, c'est un vrai problème pour l'industrie de l'élevage. Alors, pardon, encore une fois, une question à rallonge, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le mulesing et est-ce qu'il y a une porte de sortie pour les éleveurs australiens? Parce que cette pratique, elle va peut-être un jour disparaître, mais a priori, les mouches qui provoquent la mort des moutons, elles sont pas parties pour disparaître.
Oui, alors, ces mouches-là, en l'occurrence, ne sont pas endémiques parce qu'elles viennent d'Afrique du Sud. Hein. Toute importation crée énormément de problèmes. Je vais encore une fois découdre et inviter nos auditeurs, du moins ceux qui sont peut-être les plus âgés d'entre nous. Vous vous souvenez que pendant pas mal de temps, enfin moi je me souviens dans ma jeunesse où il y avait des moutons dont les queues étaient coupées, les chiens également, les chevaux. Alors les chevaux, pour les chevaux de trait, il y avait des raisons pratiques, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que les crins se prennent dans votre outillage, c'est un moyen de casser vos outils, votre cheval, et puis de vous tuer. Mais il y avait aussi des raisons de propreté hein, pour les défections, de sorte à ce que les arrière-trains de certains animaux demeurent propres. Là, en l'occurrence, le mulesing, peut-être en français, je ne sais pas s'il y a une traduction. Ce qu'il s'agit de faire, c'est assez horrible, c'est simplement de couper la peau, de sectionner la peau, hein, d'enlever une plaque de peau, voilà, je ne sais pas comment on peut le dire autrement, autour de la zone périanale des moutons. Et donc, ce qui se fait, ce qui se produit, c'est que quand vous coupez la peau en profondeur, comme pour nous, hein, si vous coupez par exemple une partie de la peau que vous avez sur votre crâne, les cheveux ne vont plus repousser. Et donc, là où des excréments pourraient, se poser, vous allez avoir une peau cicatrisée sur laquelle plus rien ne repousse, un peu comme les grands brûlés par exemple. Et donc, ça permet de garder une propreté supérieure. Si vous avez un mouton qui a été sélectionné depuis des centaines d'années pour produire le plus de laine possible, vous imaginez que si ce mouton a la diarrhée, ça va être très compliqué. Et donc, facteur, ça va attirer les mouches. Ces mouches, beaucoup de mouches ont la capacité de pondre à l'intérieur de vous. Pas que les moutons, hein, les humains aussi. Allez vous balader dans des zones tropicales sans moyen de vous prémunir des piqûres, vous allez comprendre assez rapidement. Ça attaque aussi pas mal d'autres animaux. Le problème, c'est que pour les moutons, une fois que vous avez tout un tas de miases, en fait, on appelle ça techniquement, donc ça peut être tout plein d'espèces de mouches qui pondent ces larves autour de cette zone, ça va être une mort lente, mais certaine, et très douloureuse pour ces moutons. Et donc, pour ce climat-là, en l'occurrence, et surtout du fait que ce soit des animaux qui vivent sur de l'extensif. Si vous êtes, si vous avez une ferme avec 300 têtes quelque part en Espagne ou en France, vous pouvez vous permettre de faire attention et de ne pas faire du mulesing, de ne pas enlever cette peau-là. Or, quand vous avez 15, 20, 30 000 bêtes sur 1 000, 2 000 hectares, c'est très compliqué. Et donc, il y a cette adaptation qui fait que dans les années 20, il y a un éleveur de moutons qui a mis en place cette innovation et qui s'est aperçu qu'effectivement, non seulement ça améliorait la longévité de ses moutons et de son troupeau, que la laine était plus propre, mais que aussi il y avait beaucoup, beaucoup moins de moutons infectés par ces miases.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
je précise que ce qui pose problème sur cette pratique, parce que là on dit bon, ben, les moutons souffrent d'une, pas exactement d'une maladie, d'une infection, on trouve un moyen de les en prémunir, donc c'est très bien. Sauf que cette ablation d'une partie de leur anus, elle se fait sans anesthésie et généralement, on les laisse en sang le temps que ça cicatrise. Ça peut prendre plusieurs jours et puis il y en a qui survivent pas à cette ablation parce que c'est quand même très brutal également.
Bon, si vous voulez, l'intérêt des éleveurs, généralement, c'est pas de faire mal à leurs animaux. Hein. L'intérêt des éleveurs, c'est justement d'obtenir le meilleur de ce qu'ils peuvent de ces animaux. Donc le but, c'est quand même qu'ils restent en vie. Mais c'est comme la castration des jeunes bêtes bovines mâles. Vous avez des systèmes de production qui exploitent les animaux et parfois effectivement ça donne lieu à des souffrances. Alors là, dans le cas du mulesing, l'argument c'est que ça va sauver la vie de pas mal de moutons. Et c'est vrai, mais le contre-argument, c'est attendez, c'est une douleur absolument horrible de sectionner, c'est ça dont il s'agit, de couper de la peau sur généralement des agneaux qui sont assez jeunes. Alors bon, il y a tout un tas de pratiques de coupe de peau, même chez les humains, dont on pourrait parler. Mais aujourd'hui, on a des moyens de faire ça de façon moins douloureuse avec des analgésiques ou des antidouleurs. Et surtout des produits d'anesthésie. Donc la question, c'est est-ce qu'on abandonne totalement cette pratique-là, sachant que on ne sait pas se prémunir des myases, que ce soit chez les ovins, chez les bovins, chez les poules, vous avez plein d'animaux qui peuvent mourir de ça. Donc là, il y a une solution qui fait que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut l'adapter? Donc c'est une réflexion qui se pose en Australie, parce que vous l'avez rappelé, c'est un peu le dernier pays qui pratique cette pratique, justement. La Nouvelle-Zélande l'a quasiment abandonnée, parce qu'elle faisait aussi comme Australie. Et donc, les Australiens regardent un peu ce que les voisins font. Pour le moment, en réalité, c'est simplement la méthode la plus rapide, économique et la plus sûre. Mais c'est aussi une méthode qui est cruelle.
Je précise par rapport à ça qu'il y a eu, alors c'est purement déclaratif, c'est pas comme s'il y avait des organismes de contrôle qui étaient allés voir ferme après ferme, mais il y aurait déjà, a priori, la moitié des éleveurs de moutons en Australie qui auraient renoncé à cette pratique parce que, il est plus difficile de trouver des débouchés pour de la laine, donc mulesée, à défaut de trouver une meilleure expression. Et accessoirement, quand elle ne l'est pas, ils peuvent la vendre à un prix plus élevé. Et donc, peut-être Exactement. Qu'on commence à trouver un intérêt économique à ne plus le faire, même si les alternatives que vous évoquiez coûtent clairement plus cher que un coup de couteau et hop, c'est réglé, quoi. Voilà.
Effectivement, le marché conduit toujours à des évolutions, c'est-à-dire que la demande du client va faire que les producteurs vont s'adapter. Mais cette adaptation, pour ceux qui la poussent, il faut effectivement qu'on s'assure que de l'autre côté, ce soit une pratique qui garantisse également qu'il y ait beaucoup moins de myases en réalité. Parce que sinon, ce sont des souffrances qui sont très longues et dont les animaux finissent par mourir. Donc c'est très compliqué parce que vous avez un producteur qui va dire oui, j'arrête le mulesing, mais qui va peut-être se dire bon, j'accepte qu'il y ait 10 ou 15% de taux de perte. Alors, je ne sais pas quels sont les taux de perte, mais ils seraient significatifs. Donc, voilà, la question c'est est-ce que ce qu'il y a de plus voyant dans le malheur animal ne va pas se traduire par un malheur plus silencieux, mais qui va en toucher plus? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse à ces questions-là, mais je sais que c'est une réflexion qui est menée parce que, comme vous l'avez rappelé, ce qui va dicter la conduite, soit morale, soit éthique des producteurs, finalement, c'est la dollar value, la valeur en argent sonnant et trébuchant que leur production va leur apporter.
Donc, l'industrie de la laine, c'est loin d'être terminée en Australie. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent et plein d'évolutions. Merci en tout cas Romain Fati pour toutes ces explications et ce long épisode qu'on a diffusé en plusieurs parties, justement pour rentrer dans le détail sur chacune des étapes et des problématiques liées à ce sujet. Donc merci encore à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.
Merci, très bonne journée. Au revoir.
Et enfin, d'émission, un rappel des titres du journal de ce mardi. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le gouvernement continuerait de faire pression pour une exemption totale des droits de douane américains pour l'Australie, alors que la ministre des Affaires étrangères Penny Wong est aux États-Unis pour des négociations. À compter de ce mardi 1er juillet, les Australiens vont bénéficier d'un meilleur accès au congé parental rémunéré. Le salaire minimum va augmenter et des millions de personnes verront leur paiement de Centrelink augmenter. Les appels à un cessez-le-feu à Gaza se multiplient après 24 heures de violence meurtrière dans l'enclave. Des responsables locaux et du personnel médical affirment que les attaques israéliennes auraient tué au moins 72 Palestiniens, dont 21 personnes sur un fond de mer très fréquenté près de la ville de Gaza. Et puis un mot de sport, la Coupe du Monde des clubs est le résultat d'un match qui a pris fin il y a à peine quelques minutes avec Al Hilal de l'Arabie Saoudite qui a battu Manchester City 4-3. Al Hilal se retrouve en quart de finale et jouera contre Fluminense du Brésil. Et voilà, fin de l'émission avec Zao de Sagazan qui nous interprète la Symphonie des éclairs. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Belle journée, à bientôt.
Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.